Rebonjour à tous, puisqu'on a déjà beaucoup échangé depuis 2 jours. Très très heureux d'être ici. Merci à toute la communauté de la Sainte-Baume pour cette invitation de fin d'été, dont je suis très heureux. Et en même temps, comme Pierre-Yves le disait tout à l'heure, toujours un peu inquiet à la fin d'une session comme celle-là, de voir que beaucoup de choses ont été abordées, qu'on pensait être le premier à aborder, bien sûr, dans ce qu'on allait dire. Donc moi aussi, je me posais la question, qu'est-ce qu'il me reste à dire, puisque je vais redire des choses qu'on dit aussi bien Jean-Marie Salamito en ouverture que frère Thomas Michelet ou Pierre-Yves Gomez ce matin. Donc il y aura des empiétements, mais j'espère que ça va justement permettre de montrer que tout est lié, voilà, une nouvelle fois, à beaucoup d'entre vous. Et en même temps, je vais essayer d'insister surtout sur les aspects un peu nouveaux que je vais essayer de formuler. Alors à partir d'une commande qui m'a posé quelques problèmes, frère Patrick Marie le sait et d'autres, puisque la proposition première qui m'a été faite, ça a été la suivante. Cher monsieur, est-ce qu'une intervention dont le titre serait « Voyez les lys des champs comme ils poussent sans travailler ni filer », ça vous convient pour parler du travail? Et j'ai commencé par dire ben, « ça me convient qu'à moitié » parce que si on prend cette formule des évangiles à la lettre, on peut avoir l'impression que croire à la Providence dispense de tout travail et donc le travail n'a pas de sens, n'aurait pas de sens. Alors j'ai dit « ok, mais à condition de mettre en tension ce type de formule avec d'autres passages des évangiles qui pensent dire exactement le contraire ». Et vous savez qu'en bonne exégèse, il faut justement être attentif aux textes, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, qui paraissent littéralement contradictoires, mais qui dans l'esprit ne le sont pas si on les relie entre eux, parce que tout est lié, n'est-ce pas? Et donc je disais en réponse que j'étais d'accord à condition qu'on articule ça à un texte comme celui de Jean 5, où pour justifier la rupture que le Christ opère du sabbat lorsqu'il fait certains miracles, il répond « Mon Père travaille toujours et donc moi aussi je travaille ». Et donc, est-ce qu'il faut suivre Matthieu ou est-ce qu'il faut suivre Marc? Est-ce qu'il faut ne pas travailler parce que tout pousse sans travailler? Ou est-ce qu'il faut suivre Jean qui dit « On doit travailler comme Dieu travaille tout le temps ». Donc voilà, la question est de savoir comment articuler ces passages, d'où le fait que j'ai proposé en titre ou en sous-titre la question « Y a-t-il un évangile du travail ?» pour qu'on essaie d'articuler tous ces éléments qui nous viennent de l'Écriture, qu'ensuite on essaie de les articuler à une vision humaine du travail qui puisse aussi être celle de la philosophie. Et après, j'essaierai d'ouvrir sur des questions plus concrètes du travail aujourd'hui, du rapport à la question sociale, à la question de l'entreprise, si je peux arriver à ouvrir à ce qui sera dit ensuite par Sébastien Bonte et puis un autre intervenant. Si j'en ai le temps, j'en serai heureux. Alors d'abord, dire, pour conclure ces éléments d'introduction, que cette formule « évangile du travail », ce n'est pas moi qui la propose et qui l'invente, on la trouve sous la plume de Jean-Paul II, au chapitre 6 de l'encyclique « Laborem exercens », sur le travail humain. Dans un passage que je propose de lire en premier, dans les exempliers que vous avez sous la main, parce qu'il va recouper exactement une bonne partie du propos de Jean-Marie Salamito en ouverture de notre colloque. En effet, Jean-Paul II, dans Laborem Exercens, chapitre 6, écrit ceci. Je cite donc les passages que vous avez sous les yeux. « L'âge antique a introduit parmi les hommes une différenciation typique par groupe selon le genre de travail qu'il faisait. Le travail qui exigeait du travailleur l'emploi des forces physiques, le travail des muscles et des mains, était considéré comme indigne des hommes libres et on y destinait donc les esclaves. Le christianisme, élargissant certains aspects déjà propres à l'Ancien Testament, a accompli ici une transformation fondamentale des concepts en partant de l'ensemble du message évangélique et surtout du fait que celui qui est en Dieu est devenu en tout semblable à nous, a consacré la plus grande partie de sa vie sur terre au travail manuel, à son établi de charpentier. Cette circonstance constitue par elle-même le plus éloquent évangile du travail. Il en résulte que le fondement permettant de déterminer la valeur du travail humain n'est pas avant tout le genre de travail que l'on accomplit, mais le fait que celui qui l'exécute est une personne. Les sources de la dignité du travail doivent être cherchées surtout, non pas dans sa dimension objective, mais dans sa dimension subjective. Alors cet accent est caractéristique de l'enseignement de Jean-Paul II sur les questions du travail. Et en reprenant cette formule évangile du travail, je ne le sais pas puisque Jean-Paul II maintenant est décédé, on ne peut plus lui téléphoner, lui poser des questions, mais je pense qu'il a repris le titre d'un ouvrage, pour ceux qui connaîtraient ce prêtre et ce théologien, du père Paul Doncœur, qui en 1941 avait écrit un ouvrage qui s'intitulait « L'évangile du travail » et qui avait consisté simplement à collationner dans les évangiles tous les textes où le Christ parle du travail, mais en s'adressant très souvent à des catégories particulières de travailleurs. Donc les agriculteurs, les vignerons, les domestiques, etc., etc. Et il avait fait une compilation de tous les textes évangéliques, qui est très intéressante. Moi, je trouve que c'est un ouvrage qu'il faudrait rééditer aujourd'hui, parce qu'il éclairerait beaucoup sur la manière dont le Christ parle du travail. Et la manière avec laquelle Jean-Paul II a réfléchi le travail reprend très, très largement cette vision. Alors je dirais que ce type de texte nous donne une clé à la fois anthropologique et christologique sur le sens du travail, à partir de laquelle je voudrais essayer de développer une démarche en trois temps, donc la troisième seulement si j'aurai le temps. La première, ça va être un parcours biblique, mais qui va largement recouper ce que nous a dit frère Thomas ce matin, donc je vais pouvoir aller plus vite du coup pour gagner du temps pour la suite, visant à éclairer tous les textes pour nous inviter à méditer sur le sens du travail humain qui est lié au sens de la création, bien sûr. Ensuite, j'essaierai dans un deuxième temps d'en dégager une anthropologie et une spiritualité du travail, et je le ferai en me servant d'une intervention qui m'a été demandée lors d'un campus Laudato Si récemment dans la Drôme, où j'ai proposé un parallèle qui allait de Jean-Paul II à François et à Simone Veil sur la question de la philosophie et de la spiritualité du travail. Alors je me limiterai à François et à Simone Veil pour le temps que nous avons aujourd'hui. Et puis si j'en ai le temps, j'illustrerai par quelques enjeux en tant que philosophe qui s'est trouvé impliqué dans la création d'un master philosophie management à la Cato de Lyon, dans la direction du CRESO, le centre de recherche en empreintes sociales dont vient de parler frère Patrick Marie, et dans des projets de recherche-action sur la responsabilité sociale des entreprises ces dernières années à la Cato de Lyon. Donc je commence par cette première partie que j'intitulais volontiers l'évangile du travail par les textes, qui va nous faire faire un va-et-vient entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Je vous propose de partir du texte numéro 2, la fameuse référence aux lys des champs dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 25-32, où Matthieu rapporte les paroles du Christ ainsi. Observez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille. Une version un peu plus complète que celle que j'ai mise dans l'exemplier. C'est un peu en amont. C'est pourquoi je vous dis, ne vous tracassez pas de ce que vous pourrez manger pour vivre, ni de quoi vous habillerez votre corps. Est-ce que la vie n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Observez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson et n'entassent pas de provisions dans les greniers. Et c'est votre Père du ciel qui les nourrit. N'auriez-vous pas plus de prix que les moineaux ? D'ailleurs, lequel d'entre vous, à force de préoccupation, pourrait prolonger sa vie d'un seul instant ? Et ça continue. Et le vêtement, pourquoi vous en inquiétez ? Voyez les lys des champs comme ils poussent sans travailler ni filer. Voilà la fameuse formule. Or, je vous le déclare, Salomon lui-même, dans toute sa magnificence, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi les fleurs des champs qui, du jour au lendemain, seront coupées et jetées au feu, à plus forte raison, vous autres, hommes de peu de foi, abandonnez vos soucis, ne dites plus « qu'allons-nous bien manger, qu'allons-nous boire, et avec quoi va-t-on s'habiller ?» Ce sont les païens qui se tracassent pour tout cela. Et votre Père du ciel sait que vous en avez besoin. Si on prend à la lettre, vous voyez qu'on peut arrêter là le discours et dire il n'y a pas besoin de travailler, de réfléchir sur le sens du travail. Il suffit de s'en remettre à la Providence. Alors je ferai trois remarques sur ce texte assez fondamental, mais qu'il faut prendre évidemment dans un sens qui s'articule à d'autres. La première remarque, c'est que ce type de passage peut et doit nous rappeler le premier sens à donner à l'idée de providence, qui est son sens originel. c'est-à-dire non pas de renvoyer aux événements ou aux coïncidences miraculeuses hein, que nous appelons providentielles quand nous lisons les miracles des évangiles ou quand nous appliquons cela à des événements exceptionnels dans l'histoire, mais au fait que la création en tant que telle est source de vie et que le Créateur a donné de quoi donner la vie à ses créatures. Le Créateur est provident, hein, au sens étymologique, pour ses créatures, puisqu'il est au principe de leur vie. C'est un sens, par exemple, que la philosophe Simone Weil, que je connais un peu, a retrouvé, si vous lisez l'Enracinement, lorsqu'elle critique une idée de la providence qui ne serait qu'historique au sens événementiel des événements humains. Hein, on croit à un homme providentiel, on croit à un événement providentiel sur le modèle des miracles hein, de Jésus dans les évangiles, mais on oublie que le premier sens de la providence, c'est que la création est gouvernée par Dieu, que Dieu est celui qui se préoccupe de toutes ses créatures, et que le sens historique de la providence est un sens restreint par rapport à ce sens cosmologique, métaphysique et de théologie fondamentale. Et c'est ce sens que nous rappelle le texte ici de Matthieu, qui est très important et qui recoupe hein, la théologie de la création dont nous a parlé frère Thomas tout à l'heure et qui éclaire le lien entre les encycliques sur le travail et une encyclique comme Laudato Si, hein, qui est aussi liée à ce sens de la création. Une fois qu'on a dit ça, deuxième remarque, l'étonnant, surtout pour le philosophe, c'est quand même que l'insistance de Matthieu semble conduire à occulter totalement la différence entre l'homme et l'animal dans la création. C'est-à-dire que dans la création telle qu'elle est issue des mains de Dieu, les animaux sont spontanément livrés à la recherche de leurs moyens de survie sans les moyens du travail, qui sont des moyens produits par l'intelligence humaine, hein, produits par la nécessité de fabriquer des outils, des techniques pour pouvoir subvenir aux besoins. Les animaux subviennent aux besoins par l'instinct, hein, par un certain nombre de mécanismes naturels qui régulent leur activité, mais ils n'ont pas à créer une histoire du travail, une histoire de l'économie, une histoire des besoins sociaux, etc., etc. Parce que la différence, c'est qu'à l'homme a été légué, en quelque sorte, un pouvoir propre à lui d'activité, de création, de collaboration avec Dieu, qui fait que, justement, le travail est spécifique à l'homme et qu'on ne peut pas dire au sens strict que les animaux travaillent, même s'ils font des nids, même si, etc., hein, l'écologie radicale veut nous persuader du contraire. Non, il y a une limite évidente entre ce que l'activité animale peut produire et ce que l'activité humaine intelligente produit. Parce qu'il y a une sorte de délégation de créativité donnée effectivement à l'homme seul dans la création, avec tous les risques, mais aussi toutes les beautés que cela peut produire. Alors quand on lit Matthieu, on a l'impression que cette différence est effacée, que Dieu est provident de la même manière pour l'homme et pour l'animal, sans qu'on voit hein, qu'à l'homme seul est donnée une puissance de travail qui est unique dans la création. Alors est-ce que ça veut dire que l'évangile est d'une naïveté ou d'un irrationalisme intenable dans ce que dit Matthieu, en faisant comme si l'homme vivait dans un pays de cocagne, où le travail n'est pas nécessaire pour subvenir aux besoins, ou comme s'il était un animal comme les autres, qui n'a qu'à s'en remettre finalement à ce qui lui arrive hein, dans la vie, sans avoir de moyens de produire lui-même ses moyens de subsistance. Alors avant de répondre à cette question, par le contexte de ces passages de Matthieu que je laisse de côté, mais qui sont ceux qui précèdent et ceux qui suivent le texte qu'on vient de lire, je voudrais souligner que ce sens ontologique métaphysique de la providence, on le trouve dans d'autres textes des évangiles. Mais ce qui est intéressant, c'est ce où le lien avec le travail est fait, hein, ce qui n'est pas le cas ici dans le passage qu'on vient de lire de Matthieu. Et là, je me réfère à Marc 4, 26, c'est le texte numéro 3 que vous avez, où Marc, rapportant de nouveau d'autres paroles du Christ, écrit ceci: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. » Le biologiste aujourd'hui dirait, nous on sait comment, tatati tatata, mais à l'époque du Christ, on n'a pas toutes les sciences hein, qui expliquent le détail. Bref, l'important est dans ce qui va suivre. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et, voilà l'élément important, dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. La différence ici avec Matthieu, c'est que la place du travail est tout à fait présente et honorée. Mais vous voyez que le travail est clairement rapporté, comme chez Matthieu, à une vérité qu'il précède, qui est la fécondité de la terre, qui ne dépend pas de l'homme, qui est donnée à l'homme comme quelque chose qu'il doit faire fructifier par son travail. Mais vous voyez la logique. La vérité du travail répond à la vérité de la création, à la fécondité de la terre. S'il n'y a pas la fécondité de la terre, vous pouvez travailler tant que vous voulez, ça ne donnera rien. Inversement, s'il n'y a que la fécondité de la terre et pas un travail qui prolonge sa fécondité, ça ne donnera pas grand-chose non plus. Ça va donner une économie de cueillette. Voilà. Ça ne peut pas donner une économie humaine développée, etc. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que l'insistance commune à ces deux textes, c'est que le travail n'est pas la première source de la vie. Comme dirait le pape François dans beaucoup de textes, la vérité première, la première source de vie, c'est la terre-mère, c'est la création, c'est la nature. Mais dans Marc est évidemment et directement articulée la vérité de la création et la vérité du travail qui doit se greffer sur la vérité de la création. Si on prolongeait tout de suite cette ligne, ce que je vais faire tout à l'heure dans la partie suivante, l'unité de la création et du travail qui se donne à penser ainsi, eh bien c'est celle qui est tout simplement exprimée dans les paroles de la liturgie eucharistique que nous célébrons chaque fois que nous disons la messe. Où les offrandes, devenant le corps et le sang du Christ, sont, vous pouvez donner la réponse, le fruit de la terre et du travail des hommes. Le fruit de la terre et du travail des hommes. Ce qui veut dire que sans doute la vérité la plus profonde du travail, le sens le plus profond du travail, il a une dimension eucharistique. Alors c'est à ça que je voudrais arriver tout à l'heure. Mais avant d'y arriver, je vais vous proposer de faire un itinéraire par le livre de la Genèse pour qu'on voit là aussi des textes qui paraissent littéralement contradictoires et qu'il va falloir articuler, comme on vient d'articuler précédemment les textes des évangiles. Donc là, je vais recouper le propos de frère Thomas ce matin, ce qui va me permettre d'aller plus vite. Partons du passage le plus connu et le plus cité aujourd'hui, qui semble donner une vision négative du travail, en se fixant sur son caractère pénible, dû à une malédiction issue du péché originel, donc 3:17 en Genèse, le texte numéro 4. Le Seigneur dit enfin à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. » C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Donc là, vous avez tous les discours qui disent, voyez bien, ce discours qui anathémise le travail, qui le diabolise, quelle catastrophe. Bon. Quand on lit toute la Genèse, évidemment, c'est une vérité seconde, comme l'a bien dit frère Thomas ce matin, et il faut articuler ça au chapitre 3, au chapitre 1 et 2 de la Genèse, c'est-à-dire la première révélation, affirmant que le travail précède le péché, est d'abord un signe que l'homme ayant été créé à l'image de Dieu, il est co-créateur du monde par son travail. Donc texte numéro 5, Genèse 1, 27-28. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Articulé à Genèse 2, 15, le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Ici, je ferai deux remarques, simplement. Il me paraît très important de noter que l'homme est à l'image de Dieu d'abord par sa fécondité, pas d'abord par son intelligence ou sa volonté. Et je dis cela en tant que philosophe par rapport à tout ce que la philosophie de la théorie des facultés a développé dans l'histoire. Est-ce qu'il y a un primat de l'intelligence, est-ce qu'il y a un primat de la volonté, est-ce qu'il y a un primat de la sensibilité? C'est une histoire sans fin sur la philosophie. Quand on lit la Bible, la première vérité, la première image de Dieu, c'est la fécondité. Ce n'est pas une faculté particulière, une corde de l'esprit, c'est une sorte de trait ontologique qui peut donner la procréation, mais qui donne lieu à toute créativité, quelle qu'elle soit, de quel ordre qu'elle soit. C'est quelque chose de transcatégoriel, vous voyez, l'idée de fécondité ici. Ça me paraît très très important que l'image de Dieu première, c'est celle-là. Parce que c'est une originalité par rapport à la philosophie grecque qui privilégie l'intellect, vous voyez, voilà, et qui n'a pas cette vision biblique d'abord. Et puis la deuxième remarque, ça recoupe ce qu'a dit frère Thomas, bien sûr, et d'autres depuis le début de cette session. On cite, quand on se réfère à la Genèse avant tout, donc le premier texte qu'on a lu de Genèse 3, comme s'il était principe de la civilisation de domination de la nature, ou Genèse 2:15, alors qu'il faut bien sûr voir que créer un jardin, c'est tout autre chose que piller la nature. Et donc quand on fait une ligne continue de la Bible à la modernité et à la postmodernité dans laquelle nous sommes, il y a quelque chose qui est masqué. qui est la rupture qu'il va y avoir avec la vision biblique. Et cette rupture, alors si j'avais le temps, peut-être je le dis ici parce que je risque de pas avoir le temps après, ça me paraît important de souligner au plan de l'histoire des idées et de la civilisation occidentale et mondiale qu'elle va se jouer à la fin du Moyen-Âge, lorsque les sciences ne vont plus être un vecteur de contemplation de la nature, mais vont être uniquement vues comme un instrument d'exploitation des ressources naturelles. C'est le passage de la science antico-médiévale, du sens antico-médiéval de la science au sens moderne, celui qui naît avec Descartes et Galilée, qui pense la science avant tout comme une exploitation de la nature. Et la vision théophanique du monde disparaît à ce moment-là. C'est-à-dire l'idée que le cosmos puisse être reflet de la bonté, de la beauté de Dieu. C'est ça la vraie rupture entre la vision biblique et la situation moderne à laquelle nous sommes. Et ça, c'est souvent oublié par les écologistes radicaux, comme par les historiens classiques du travail, etc. Pour moi, c'est très très important de le souligner. Alors j'arrive à un dernier point pour terminer cet itinéraire biblique. C'est qu'il ne faut pas oublier non plus un troisième élément qui est également essentiel dans la Genèse. C'est celui qui montre que le travail n'est pas une fin en soi, parce qu'il doit ouvrir au repos et à la louange de la création et du Créateur. Texte numéro 6, en Genèse 2, 3. « Et Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. » Et c'est l'origine de la tradition du sabbat, dans la tradition juive, de la tradition du dimanche dans le christianisme. Je cite juste Deutéronome 5, 12, 14. « Observe le jour du sabbat, en le sanctifiant selon l'ordre du Seigneur ton Dieu. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. » Et ceci est très important parce que ça montre que le travail n'est qu'un ensemble de moyens en vue d'une fin qui dépasse évidemment la sphère du travail, qui est l'histoire du salut, la contemplation du royaume, etc. Alors, à la lumière de tous ces textes, on est en mesure d'éclairer la parabole du lys des champs, d'où on est parti, par les deux affirmations qui l'encadrent, mais que souvent on ne cite pas en même temps. Et inversement, on cite ces deux formules sans savoir que ça encadre la parabole du lys des champs et des oiseaux du ciel. J'arrive au texte 7, en Matthieu 6, 24, qui ouvre la référence aux oiseaux du ciel et au lys des champs, où Jésus dit à ses disciples, « Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien l'on trahira l'un en servant l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on négligera l'autre. Vous ne pourrez donc servir à la fois Dieu et l'argent. » Survient la parabole des oiseaux des champs, des oiseaux du ciel et des lys des champs, et à la fin de la parabole, Matthieu 6, 33, survient la fameuse phrase que nous connaissons tous par cœur. « Aussi, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. » Donc il faut faire toute la courbe de l'ensemble du texte. Et qu'est-ce que ça révèle? Eh bien qu'il y a là une question de hiérarchisation et d'ordination des niveaux de réalité et de l'activité humaine. Ce que confirme donc une dernière formule, voilà, celle à laquelle je pensais quand il y a eu la proposition qui m'est venue pour cette session, le texte 8 en Jean 5, 17, où après la guérison d'un infirme à la piscine de Bethséba, les Juifs persécutaient Jésus parce qu'il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Mais Jésus leur répond, « Mon Père travaille toujours et toujours à l'œuvre, c'est la traduction, et moi aussi je travaille. » Et le texte prolonge, c'est pourquoi les Juifs cherchaient davantage à le tuer, parce que non seulement il rompait le sabbat, mais aussi parce qu'il faisait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Or, quel est le sens théologique et spirituel qu'il y a là derrière? C'est que travailler ici signifie servir le Père. Et le sens chrétien du travail, c'est toujours de servir le Père, de servir la création. Et, comme on l'a dit, le même commandement, c'est aimer les hommes et aimer Dieu, de servir Dieu en servant les hommes, et en servant les hommes, de servir Dieu, même si on ne le sait pas explicitement. D'où les types de formules en Jean 4, 34, où Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à sa fin. » Vous avez tout le temps ça dans les évangiles. Lequel des deux fait la volonté du Père? C'est toujours celui qui agit au service du Père, etc. Et donc, on comprend comment l'affirmation « le Père travaille toujours » Et le fait d'ordonner le travail à l'amour de Dieu et à l'amour des hommes, c'est la même affirmation. Et donc c'est une ordination du travail à l'amour et au service qui lui donne son sens. Un sens essentiel, mais qui n'est jamais une fin en soi, parce que c'est au service de l'amour et du bien de l'humanité et du bien de la création. En conclusion, je dirais que l'ensemble de ces textes, il répond de manière apparemment opposée à deux manières réellement opposées, mais tout aussi fausses l'une que l'autre, d'ignorer la vérité du travail humain. La première, c'est celle qui maudit le travail en y voyant un esclavage dont il faut absolument se débarrasser. Et si on n'arrive pas à s'en débarrasser, on le confie à des esclaves qui vont travailler pour celui qui ne travaille pas. C'est quasiment une loi historique dans l'histoire de l'humanité. Une deuxième manière d'ignorer la vérité du travail, c'est le type d'exaltation prométhéenne que la modernité a souvent fait, dans laquelle on est encore aujourd'hui, comme Pierre Gomez nous le disait pour une part tout à l'heure, qui est d'en faire une sorte de finalité en soi, comme si le fait de produire sans fin des biens de consommation, de piller et de consommer la nature, c'était la fin de la vie, la finalité de la vie, de l'existence. Donc, vous voyez, quand on a à l'esprit les textes de l'Écriture qu'on vient de voir, on esquive d'emblée ces deux excès inverses, diaboliser le travail, ou au contraire, quasiment en faire une fin en soi, le diviniser comme si c'était l'absolu, la seule finalité de l'existence. Ce que le matérialisme et le consumérisme moderne font, qu'ils l'explicitent ou pas. Donc c'est ce service de l'humanité et de Dieu qui donne le sens du travail. Et je voudrais essayer d'illustrer certaines dimensions, mais voilà, sans pouvoir évidemment être exhaustif, puisque je vois que l'heure avance, en arrivant à un moment où je voudrais indiquer quelques lignes de ce qu'on pourrait appeler une spiritualité du travail qui se greffe sur ce sens biblique du travail, mais à travers des références plus contemporaines. Alors ici, si j'avais le temps, voilà, j'aurais développé ce que moi j'ai découvert quand je suis arrivé à Lyon, puisque je suis un Niçois d'origine, et quand j'ai été nommé à la Cato de Lyon en 1992, j'ai découvert l'histoire du catholicisme social lyonnais. Et j'ai découvert tout ce que mes prédécesseurs philosophes des années 30 aux années 50 ont nourri de cette tradition du catholicisme social, en créant les semaines sociales de France, qui à l'époque était un événement autant ecclésial que sociopolitique, alors qu'aujourd'hui c'est devenu davantage un rassemblement économico-social politique, même s'il y a une inspiration chrétienne derrière. Enfin, c'est moins un événement officiel de l'Église de France, comme c'était le cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. J'ai découvert cette tradition, et pendant 20 ans, j'ai vécu avec les archives de Jean Lacroix et de Joseph Vialatou, l'un disciple d'Emmanuel Mounier, fondateur du personnalisme français, et l'autre qui a été appelé le philosophe lyonnais des semaines sociales, et qui ont été pétris de ce sens biblique du travail et qui ont cherché à l'actualiser, comme on parlait de Rerum Novarum et des encycliques pontificales précédemment, mais au niveau de leur action de laïc dans la cité, d'où les colloques qu'on leur a consacrés, comme celui-ci, Humanisme et philosophie citoyenne. Donc, je disais à Patrick Marie que je laisserai à la bibliothèque de la Sainte-Baume ses ouvrages en mémoire de cette session, et puis un autre ouvrage dont j'essaierai de parler tout à l'heure. Donc j'ai découvert cette tradition, voilà, j'aurais été heureux de développer cela, mais je n'ai pas le temps, donc je vais me centrer sur un parallèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, où j'ai essayé d'articuler la pensée du pape François et celle de Simone Veil, qui est une autre philosophe, alors dont l'originalité est de ne pas être philosophe catholique, officiel, comme Jean Lacroix ou Joseph Vialatou. Mais l'intérêt, justement, c'est que c'est quelqu'un qui, au départ, est hors du christianisme, hors de l'Église, puis qui se rapproche de plus en plus, qui va rester au seuil de l'Église pour un tas de raisons, mais d'abord parce qu'elle meurt à 34 ans pendant la guerre, mais qui est un peu, pour moi, la figure de l'articulation entre être dans l'Église et être en dehors, être le lien, l'intersection entre ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors. Et aujourd'hui, pour l'évangélisation, ça me paraît très important de pouvoir s'inspirer d'œuvres comme celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme éléments de réflexion qui me paraissent très intéressants et stimulants, à la fois chez Jean-Paul II, chez Benoît XVI, chez François, chez Simone Veil. Ici, je me réduis à François et Simone Veil, mais j'ai fait la même chose avec Jean-Paul II par ailleurs. C'est d'abord de voir dans le travail une manière de révéler à l'homme la vérité du monde. On l'a vu, le sens du travail est lié à la vérité de la création. Le travail se sert de la vérité de la création pour prolonger de quelle manière la création doit être au service de l'homme. Donc le travail se rapporte à un don à faire fructifier. Mais ça va être une manière aussi de révéler la beauté du monde. Normalement, tout travail se greffe sur les lois de la nature, sur le logos qui est inscrit dans la création. Donc il y a une manière, chez François comme chez Simone Weil, ça me frappe beaucoup dans beaucoup de textes, de lier le travail et la contemplation de la création. À partir d'un premier parallèle que j'ai mis ici dans la page première Spiritualité du travail de François Simone Weil, qui est de comprendre le don de la création, le don de la terre, moins comme quelque chose qu'on doit s'approprier que comme un prêt qu'on doit mettre en valeur. Vous voyez, j'ai pris une formule de François à gauche qui dit ceci: la terre n'est pas un héritage que nous avons reçu de nos parents, mais un prêt que nous font nos enfants afin que nous la gardions et que nous la fassions croître pour la leur redonner. Ça, c'est la logique intergénérationnelle dans laquelle la crise écologique nous met aujourd'hui. Et vous trouvez dans les Cahiers de Marseille de Simone Weil ce genre de formule, alors qui est beaucoup plus générale au plan ontologique, mais qui recoupe bien, je trouve, cette idée. Tout ce qui est précieux en moi vient d'ailleurs que de moi, non pas comme don, au sens où je me l'approprierai, mais comme prêt qui doit être sans cesse renouvelé. Tout ce que je m'approprie est immédiatement sans valeur, parce que ce que je reçois comme un don doit être transmis, doit être source de fécondité au-delà de moi. Donc c'est quelque chose qui est objet de transmission plutôt que objet d'appropriation qui fermerait sur moi le don que je reçois. Vous voyez tout ce que ça peut inspirer sur une philosophie de la propriété privée par rapport à ce qu'on disait hier aussi. Est-ce qu'elle est un service? Est-ce qu'elle est une transmission? Ou est-ce qu'elle est quelque chose qui se clôt sur lui-même? Ça, c'est un premier accent. Deuxième accent, c'est le fait que le travail le plus humble doit révéler à l'homme une vérité de lui-même, de ses capacités, de sa dimension de créativité, de sa responsabilité et de la vérité du monde. Ici, j'ai mis en parallèle, de nouveau, un passage de Laudato Si et différents passages de Simone Weil. Dans Laudato Si, François écrit ceci: « Jésus travaillait de ses mains, au contact direct quotidien avec la matière créée par Dieu pour lui donner forme, avec son habileté d'artisan. Il est frappant que la plus grande partie de sa vie était consacrée à cette tâche dans une existence simple qui ne suscitait aucune admiration. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? Il a sanctifié de cette manière le travail. Et comment il l'a sanctifié ? Eh bien, en articulant le travail avec la beauté du monde, ça peut être la beauté du bois à travailler, ça peut être la beauté du service des hommes, etc. D'où le passage suivant au paragraphe 97 de Laudato Si. Le Seigneur pouvait inviter les autres à être attentifs à la beauté qu'il y a dans le monde parce qu'il était lui-même en contact permanent avec la nature et y prêtait une attention pleine d'affection et de stupéfaction. Quand il parcourait chaque coin de sa terre, il s'arrêtait pour contempler la beauté semée par son Père. Il invitait ses disciples à reconnaître dans les choses un message divin. Levez les yeux, regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Le royaume des cieux est semblable à un grain de senevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Et les mêmes paraboles qu'on voyait tout à l'heure qui sont utilisées. Et comme par hasard, quand vous allez voir la philosophie du travail de Simone Weil, vous trouvez les mêmes accentuations. Elle, à partir de son expérience de travail ouvrier, ensuite à partir de son expérience de travail agricole, mais exactement les mêmes accentuations. Donc je lis rapidement les textes que vous avez en regard. Le génie du plus simple artisan l'emporte autant sur les matériaux qu'il exploite que l'esprit d'un Newton sur les sphères inertes dont il calcule les distances, les masses et les révolutions. Un ouvrier qui éprouve sans cesse la loi du travail peut connaître bien plus et sur lui-même et sur le monde que le mathématicien qui étudie la géométrie sans savoir qu'elle est une physique. L'ouvrier peut être sorti de la caverne et les membres de l'Académie des sciences peuvent se mouvoir parmi les ombres. Ça, c'est l'ironie de Simone Weil par rapport aux intellos qui sont un peu trop éthérés et qui ne font pas le lien avec le travail concret, la matière sociale concrète, parce qu'ils sont dans la théorie pure, au lieu de lier théorie et pratique, ce qui est la vérité de tout travail humain. Mais Simone Weil a connu le travail prolétarien dans les années 30, où le prolétaire était comme un esclave antique, ne pouvant rien maîtriser par son esprit du travail qu'il faisait. Le vrai travail, c'est celui qui incarne de l'esprit dans une matière, en sachant ce qu'il fait, en pouvant en faire le projet, en pouvant en contempler le fruit, etc. Impossible dans le travail prolétarien. Donc c'est pour ça que dans son journal d'usine, Simonet avait écrit la formule que j'ai mise ensuite en exergue, non seulement que l'homme sache ce qu'il fait, mais si possible qu'il en perçoive l'usage, qu'il perçoive la nature modifiée par lui, que pour chacun son propre travail soit un objet de contemplation. Et cette affirmation que vous trouvez ailleurs, que travail et contemplation sont les deux pôles de la pensée. C'est-à-dire qu'une pensée humaine qui serait livrée à la contemplation pure sans aucun travail aurait quelque chose qui manquerait de cette liaison d'ensemble de tous les niveaux de réalité, et une vie qui serait uniquement consacrée à un travail matériel sans possibilité de contemplation serait trop rivée à la nécessité et ne pourrait pas s'en libérer par un recul. Voilà. Donc là, ça vous donne une clé de la philosophie du travail de Simone Weil qu'on pourrait développer si on en avait le temps. Mais j'avance et j'articule cela à la référence évangélique que Simone Weil va faire ensuite, après sa rencontre du Christ, après l'articulation qu'elle fait entre sa première philosophie et l'Évangile, lorsqu'elle écrit dans l'Enracinement à Londres, comme les petits jossistes, donc c'était les militants de la JOC, de la jeunesse ouvrière chrétienne, de la fin des années 30, s'exaltaient à la pensée du Christ ouvrier, les paysans devraient puiser la même fierté dans la part qu'accordent les paraboles de l'Évangile à la vie des champs et dans la fonction sacrée du pain et du vin, et en tirer le sentiment que le christianisme est une chose à eux. Et au passage, pourquoi par exemple un paysan en train de semer n'aurait-il pas présente au fond de sa pensée quelques comparaisons du Christ? Si le grain ne meurt, la semence est la parole de Dieu, le grain de Sénévé, la plus petite des graines, etc. Donc toutes les paraboles, vous voyez, qui articulent le royaume de Dieu à des paraboles issues des travaux agricoles, issues du travail humain. Et vous avez chez Simone Weil cette manière constante d'articuler les textes des évangiles et l'expérience concrète du travail, qu'il soit ouvrier ou agricole. Et je vous ai mis une dernière formule ici qui, pour moi, est d'un point de vue spirituel et même mystique, peut-être la plus magnifique chez Simone Weil, parce qu'il est rare qu'on ait poussé à ce point l'analogie. C'est l'analogie entre la vérité du travail et l'Eucharistie. Alors, on trouve souvent chez Simone Weil cette idée que le travail est fait pour donner la vie, au plan humain, au plan social, mais qu'on peut articuler à partir de là la vérité du travail à la vérité de l'Eucharistie. Et ce n'est pas un hasard si le Christ se sert du travail humain pour l'intégrer à la vérité de l'Eucharistie. Alors comme je vois que le temps tourne et que je n'ai pas le temps de tout lire, je saute tout de suite à la deuxième partie du texte numéro 4. Vous lirez en regard le texte du pape François que j'ai mis en regard, mais je voudrais insister sur ce passage qui me paraît très très précieux pour ceux qui veulent approfondir une spiritualité chrétienne du travail. Je prends le texte à partir du passage suivant. « Si le Christ a choisi le pain et le vin pour s'y incarner après sa mort, chaque jour, à travers les siècles, et non pas par exemple de l'eau et des fruits sauvages, ce n'était pas sans raison. Il y a sans doute une infinité de raisons pour une action infiniment sage, mais en voici peut-être une. Un homme qui travaille brûle sa propre chair et la transforme en énergie, comme une machine brûle du charbon. C'est pourquoi s'il travaille trop ou s'il ne mange pas assez par rapport au travail qu'il fournit, il maigrit, il perd de la chair. Ainsi, on peut dire en un sens que le travailleur manuel transforme sa chair et son sang en objets fabriqués. Pour les paysans, ces objets fabriqués sont le pain et le vin. Le prêtre a le privilège de faire surgir sur l'autel la chair et le sang du Christ. Mais le paysan a un privilège non moins sublime. Sa chair et son sang, sacrifiés au cours d'interminables heures de travail, passant à travers le blé et le raisin, deviennent eux-mêmes la chair et le sang du Christ. » Évidemment, c'est par analogie et par participation que Simone Weil dit cela, c'est-à-dire l'idée que le paysan qui est un croyant va vivre son travail sur le modèle analogiquement de l'Eucharistie. Il va dépenser son énergie et sa vie pour l'offrir à ses frères en humanité, le travail pour subvenir aux besoins humains, et pour offrir la création à Dieu. Vous voyez, c'est le même geste spirituellement. Et donc, par analogie, il participe à une vérité que l'Eucharistie réalise totalement avec cette inscription du travail des hommes dans la liturgie eucharistique telle que le Christ l'a instituée. Et pour Simone Veil, ça veut dire que l'Eucharistie chrétienne donne en quelque sorte la lumière ultime sur quelque chose qui pour elle est une vérité anthropologique universelle. Lorsqu'elle écrit, elle le disait à ses élèves du lycée d'Auxerre dans les années 30, « L'homme donne son sang, sa chair à l'homme sous forme de travail. L'homme se donne à l'homme en tant que travail. » Alors là, dans ces textes, elle le dit pour le travail agricole, pour le travail ouvrier, mais ça serait vrai aussi pour elle du travail intellectuel. Pendant la guerre, elle dit « Le philosophe qui enseigne, c'est quelqu'un qui donne sa vie à travers une dépense d'énergie intellectuelle qui transmet de la vérité, de la beauté, comme un paysan ou l'ouvrier transmet des biens pour souvenir à la vie. Il est un témoin de la vie morale et spirituelle, comme un ouvrier, un paysan est un témoin du service des besoins humains, etc. » Et donc, si vous reliez cela à tous les textes d'une Simone Veil sur la fille du travail, vous voyez qu'elle pense que les totalitarismes modernes sont des systèmes qui ont été tellement fascinés par les systèmes de puissance que la science et la technique moderne a créés, qu'on a été fascinés par la puissance de domination que ça donnait. Et on l'a divinisé. Et ça donne les totalitarismes. Alors que la réponse spirituelle et chrétienne à la puissance que l'homme a acquise sur la nature, ça devrait être d'accroître le service des besoins humains de telle manière que personne ne manque de rien. Et ça devrait être de pouvoir permettre d'approfondir toujours davantage la vérité de la création et la vérité de la solidarité entre les hommes que le travail, la division du travail permet. Et c'est cela qu'elle appelait une civilisation de la spiritualité du travail. Alors c'était le sens du dernier texte que je vous ai mis, que je n'ai pas le temps de lire, mais où il est amusant de voir que Simone Veil dit que les pensées qui se rapportent au pressentiment de cette vocation d'une spiritualité du travail sont éparpillées chez Rousseau, George Sand, Tolstoï, Proudhon, Marx, dans les encycliques des papes et ailleurs, et sont les seules pensées originales de notre temps que nous n'ayons pas empruntées aux Grecs. Parce que même le divin Platon n'avait pas réussi à voir la spiritualité du travail. Voilà, c'est la vision dans l'histoire de la philosophie de Simone Veil. Je vous ai mis rattaché à cela deux citations qui sont les premières des papes contemporains citant Simone Veil. Le texte de Benoît XVI et celui de François, 2009 et 2023, sur la beauté du monde, mais ça s'articule à la vérité du travail telle que je viens d'essayer de l'exprimer. Et je voulais juste conclure, voilà, pour faire une transition avec ce qui va nous être dit après par Sébastien et j'oublie le nom de l'autre intervenant. Qu'est-ce que ce sens biblique du travail, qu'est-ce que cette spiritualité du travail peut nous donner comme inspiration pour une économie humaine, pour une spiritualité du travail dans un contexte contemporain. Donc je ne sais pas s'il me reste encore 4-5 minutes, dites-moi. 4-5 minutes, c'est possible. Voilà, j'essaie de conclure ainsi. Par rapport à la crise du capitalisme dont nous a parlé, je dirais volontiers ceci. Nous avons tous conscience d'une contradiction interne de la modernité ou de la postmodernité dans laquelle nous sommes, qui continue à se nourrir du mythe d'une croissance prométhéenne et exponentielle, alors qu'elle a de plus en plus conscience de ne plus pouvoir y croire avec les crises écologiques et sociales dans lesquelles nous sommes. Et donc, concernant le travail en tant que tel, il me semble que la contradiction est souvent dans la continuation de l'idée selon laquelle la valeur du travail est d'abord dans l'enrichissement et la consommation. Il y a une formule politique qui a dit « il faut travailler plus pour gagner plus ». Bon, on voit tout de suite la limite par rapport à la spiritualité biblique du travail, de ce genre de choses. La limite que nos jeunes aujourd'hui nous renvoient à la figure. Si travailler plus, c'est uniquement pour gagner plus, ben, ça ne m'intéresse plus. Ça intéressait peut-être la génération des parents, mais nous, maintenant, ça ne nous intéresse plus. Parce qu'on a tellement peur que ça conduise l'humanité à la catastrophe qu'on ne veut plus. Et donc, il y a une sorte d'épuisement de cet idéal, d'une productivité, d'une consommation toujours sans fin, ce que Pierre-Yves nous a très bien expliqué tout à l'heure. Et donc, quel sens à ce moment-là donner au travail ? Bien, je suis tout à fait frappé de voir que dans la jeunesse actuelle, les étudiants que j'ai eus toutes ces dernières années, il y a le désir d'un travail qui ait du sens avant même tout désir d'enrichissement. y a un désir de trouver du sens dans les relations humaines, de vouloir répondre aux besoins sociaux, de vouloir répondre au service de l'humanité. J'ai créé à la faculté de philosophie de la Cato un master philosophie management. J'étais vraiment très frappé de voir que même ceux qui allaient ensuite à l'école de commerce, à l'ESDES de la Cato, ne rêvaient pas d'être des cadres financiers ayant un super salaire, mais voulaient s'engager dans l'économie sociale et solidaire, voulaient s'engager dans des ONG, voulaient s'engager dans de l'associatif, etc., dans des entreprises à mission aujourd'hui, créées par la loi Pacte, etc. Et de voir que ces étudiants qui après coup viennent vers moi en me disant merci pour ce que vous avez fait pour nous, parce que c'est cette liaison entre humanisme et travail qu'on voulait vivre, et grâce à la formation qu'on a eue, on y est arrivé. Et à ma leçon publique finale, puisque j'arrive à la retraite, c'était le 2 juillet dernier, c'est eux qui sont venus le plus me remercier à la fin. Voilà, c'était magnifique. Deuxième chose qui me touche beaucoup, c'est le désir de transformer l'économie et l'entreprise que je vois de plus en plus depuis une vingtaine d'années. Donc, c'était dit tout à l'heure, j'ai été amené par mon recteur, le père Thierry Magnin, à diriger à la Cato le CRESO, Centre de recherche en appareil social. On a été amené à créer, à piloter deux projets FEDER, pour ceux qui connaissent les projets FEDER européens de développement régional, qui ont porté sur la RSE, sur les liens entre l'ESS et l'économie classique, les entreprises de l'ESS et les entreprises classiques, toute l'étude des partenariats de co-construction du bien commun, hein, comme on le dit souvent aujourd'hui dans le vocabulaire du rameau, par exemple, pour ceux qui ont été un de nos partenaires, qui permettent à la fois de sortir de l'opposition privé-public que le libéralisme classique a souvent instituée, hein, parce qu'on s'aperçoit que l'État-providence, c'est fini, mais que tout laisser au libéralisme, à l'ultralibéralisme privé, c'est pas bon non plus. Il faut la collaboration de tous les acteurs privés et publics, à tous les niveaux d'échelle des corps intermédiaires, pour que on arrive au niveau d'un territoire, par exemple, à construire une économie humaine qui réponde aux besoins, qui ne soit pas liée aux volontés de puissance des multinationales qui sont délocalisées et qui se fichent éperdument des territoires sur lesquels elles sont implantées, n'est-ce pas, voyez ? Donc voilà, j'ai été pendant 5 ans immergé dans ce travail, ça a été absolument passionnant. Et de voir des acteurs qui ont ce souci du bien commun, même s'ils ne sont pas croyants, mais voilà, ils ont une fibre humaine de service qui est magnifique. Et puis j'ai été amené à participer à des groupes, des réseaux de recherche, comme le GRAS, hein, dont on a parlé, comme la Société de philosophie des sciences de gestion aussi, où il y a beaucoup de collègues en gestion, en économie, en sciences sociales, qui sont de plus en plus critiques vis-à-vis d'un libéralisme débridé, ou bien de ce qui serait des étatismes en réponse à cela. Donc ça, c'est très encourageant pour moi. On parlait avec certains de l'entreprise libérée. Alors le Grasse a dit, il vaut mieux l'entreprise délibérée. La loi Pacte crée les entreprises à mission, hein, pour ceux qui les connaissent aujourd'hui. On parle de plus en plus aujourd'hui, je pense à un économiste comme Olivier Favreau, pour ceux qui le connaîtraient, qui dit qu'il faut créer une co-gestion à la française sur le modèle allemand, ce qu'il appelle la codétermination, c'est-à-dire une participation des salariés beaucoup plus forte à la gestion, à la direction d'une entreprise, par exemple. Donc voilà, tout ça, c'est des grands motifs d'espoir pour moi que je vois un peu tous les jours avec les partenariats qu'on a créés. Et puis le dernier point, je voulais terminer par là, c'est tous ceux qui s'engagent dans la transition écologique, mais pas au niveau du greenwashing médiatico-politique, mais vraiment au niveau concret, au niveau de ce qui a un impact immédiat sur la vie des gens. Juste 2 ou 3 témoignages pour finir. J'ai eu l'occasion de travailler avec Frédéric Joliet, fondateur de 1001 repas à Lyon, pour ceux qui connaissaient cette entreprise, qui nous témoignait au CRESO qu'il a tout simplement été inspiré par Solaire Emmanuel pour lutter contre le gaspillage dans la restauration de masse qui était le vecteur de son entreprise. Et il a fait de la lutte contre le gaspillage grâce à l'inspiration de Sir Emmanuel, il est chiffonnier du Caire, il a transposé ça à l'alimentation de masse, le vecteur de son action. Et son témoignage était absolument magnifique. De la même manière, pour ceux qui auraient connu, qui connaîtraient les tissages de Charlieu et d'Éric Boël, qui est un chef d'entreprise magnifique, qui, avec son entreprise, lorsqu'il y a eu la crise du Covid, a tout arrêté et a mis toutes ses machines au service de l'État pour fabriquer des masques, puisqu'il n'y avait plus de, pas de masques, et il fallait des masques à tout prix. Donc les hélicoptères de l'armée de l'État sont descendus à Charlieu pour récupérer les masques qu'ils étaient en train de fabriquer. Il a mis toute son entreprise au service de ça. Voilà, ça c'est un exemple que j'ai vu assez extraordinaire. Et puis voilà, il y en a d'autres. ceux qui connaissent le petit village de la Bénisson-Dieu où Gauthier-Besse et les amis de la revue Limite ont créé un village écologique. J'ai un autre ami, Arthur Vaglaperrière, cadre financier, qui a tout plaqué au niveau de l'économie financiarisée pour créer son entreprise en bâtiment sur la transition écologique et qui a écrit un petit livre, L'entrepreneur philosophe, que j'ai préfacé pour montrer comment, à partir d'une inspiration qui lui vient en partie de Simone Veil, il a bâti cette entreprise au service de la transition écologique, mais dans le concret, hein, pour aider à restaurer des maisons, etc. Bon voilà, il y aurait beaucoup, beaucoup d'éléments comme ça à mettre en série. Je le dis parce que je voudrais témoigner qu'il y a beaucoup de motifs d'espoir, malgré les crises dont on nous parle, dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Donc pour conclure, je dirais simplement qu'il me semble que la tradition biblique que nous pouvons réactualiser aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Trois choses fondamentales. Le travail ne doit être ni diabolisé ni idolâtré. Il est un service des hommes, de la création et de Dieu. Ça, c'est voilà, le corpus évangélique et biblique. Et s'il est vécu comme un service de Dieu et de louange de la création, hein, comme j'essaie de le dire, comme une offrande eucharistique, eh bien, il peut vraiment être un vecteur de sainteté au même titre que la contemplation. C'était ça, en particulier, qui était une inspiration de Simone Veil. Et donc, articuler vita activa et vita contemplativa, voilà une manière de répondre aux défis du moment. On le retrouvera peut-être demain avec la question agir dans le monde sans être du monde. Voilà.